Aujourd'hui, les plaisirs à Rome avec Jean-Noël Robert, historien. Jean-Noël Robert, bonjour.
Bonjour.
Alors avec vous, nous allons remonter dans le temps pour évoquer l'usage des plaisirs à Rome, en commençant par l'espace domestique de la famille romaine et patriarcale, une institution qui a elle-même évolué, mais qui constitue un élément essentiel de l'héritage romain. Et si l'on veut bien, Jean-Noël Robert, l'image que certaines traditions donnent de la femme romaine sous les traits de la matrone semble bien éloignée de la notion de plaisir.
Oui, effectivement. La matrone romaine, de toute façon, est la mère de famille. Elle n'est pas la femme tout à fait assujettie comme l'a connu la Grèce, par exemple. Elle n'est pas non plus la femme étrusque qui semble avoir joui d'une certaine liberté. Rappelons que cette femme, d'ailleurs, n'a pas de statut juridique. Elle n'est pas libre. Elle dépend de son père et puis de son mari. Mais, en revanche, elle jouit d'une certaine autorité à l'intérieur de sa maison. C'est-à-dire qu'elle est la mater familias. C'est elle un petit peu qui est le ministre de l'Intérieur, si je puis dire, à la maison, derrière l'autorité du pater familias, bien sûr.
Oui, oui, elle a une responsabilité même économique au sens de l'économie, au sens où l'entendait Aristote, c'est-à-dire finalement de la gestion des affaires de,
évidemment,
de
évidemment,
la maisonnée.
Et elle doit ordonner la bonne marche de cette maison, et c'est elle qui va gérer, comme l'on dit aujourd'hui, l'importante domesticité qu'il peut y avoir dans les grandes maisons.
Voilà, alors comment se passait justement les relations, je crois que la notion d'amour était exclue
tout à fait.
De l'idée du mariage.
Tout à fait exclue, effectivement, pour des raisons bien simples, c'est que le mariage dans les grandes familles, dans les catégories, disons, supérieures de la société, et je m'empresse de dire que, contrairement à ce que nous pouvons imaginer, le mariage ne concernait pas toutes les catégories sociales. Disons que, grosso modo, ça pouvait représenter un tiers de la société. Ceux qui étaient concernés par le mariage, donc c'est relativement peu. Et donc dans ces catégories-là, eh bien, le mariage est d'abord une entente entre familles. Dès le début de l'histoire de Rome, les enfants étaient fiancés alors qu'ils n'avaient que 4 ans, 6 ans, 8 ans, par les pères qui s'entendaient pour leurs affaires, si je puis dire. Le mariage intervenait ensuite très tôt, pour la fille à partir de l'âge de 12 ans, pour le garçon théoriquement 14 ans, en réalité un petit peu plus tard, dès qu'il commençait à rentrer dans la vie publique, si je puis dire, dès qu'il était majeur. Mais on pouvait donc pas parler d'amour, effectivement, dans cette union-là. Alors, il faut bien se rendre compte que si ce mariage à 12 ans pour les filles était autorisé, si jeune, c'est aussi parce que, justement, l'amour n'avait pas sa place, c'est-à-dire qu'il ne devait pas y avoir place pour la passion non plus, et que l'on craignait la femme. Il faut dire que pendant toute l'ère romaine, les Romains ont craint les femmes, ont eu peur des femmes, et ont trouvé différentes solutions pour les apprivoiser, d'une certaine façon. Or, au début, se marier à 12 ans, c'était, selon la formule et comme l'on dit, être sûr d'avoir les prémices intactes du corps et du caractère. Donc, on était sûr que la femme n'avait pas été tentée par un autre homme, et par conséquent, elle devait être toute dévouée naturellement et obéissante à son mari. Je rappelle que le père passait, si je puis dire, l'autorité paternelle au mari qui devenait le nouveau tuteur de sa femme.
Alors, parlons un peu, si vous voulez bien, de la sexualité dans le couple romain, et puis après on parlera peut-être, parce que le cadre très rigoureux du mariage va évoluer.
Oui.
Et on parlera peut-être aussi de la sexualité de la femme romaine en dehors du mariage. Mais pour l'instant, voilà, comment ça se passe dans le lit conjugal?
Eh bien, dans le lit conjugal, ça se passe quand le père de famille, quand le maître de maison en a envie. C'est-à-dire que, en général, les époux font chambre à part. Le seul but des relations qu'il peut y avoir avec une épouse légitime, c'est d'avoir un héritier. C'est d'avoir des un ou plusieurs héritiers, mais surtout un héritier mâle, ce qui est très important, puisque finalement, ce qui compte, c'est la transmission de l'héritage, c'est la transmission du nom, c'est la transmission du patrimoine, et de ce fait, l'enfant est conçu comme tel. C'est-à-dire que la femme, si vous voulez, n'est qu'un vecteur. Elle n'est là que pour porter l'embryon. D'ailleurs, elle en est dépossédée dès que l'enfant vient au monde. Elle porte l'embryon. Il lui appartient tant que l'embryon est en elle. Dès qu'elle met l'enfant au monde, c'est le père qui en fait ce qu'il veut. Et il peut très bien décider qu'il ne garde pas cet enfant. On peut l'exposer, comme l'on disait, aller le mettre sur le tas de fumier au coin de la rue, n'est-ce pas, où il sera peut-être récupéré par quelqu'un qui n'a pas d'enfant ou qui va le prendre pour en faire un esclave, l'éduquer dans ce but et le revendre, enfin que sais-je. Ou bien il peut le noyer, ou bien il peut le supprimer parce qu'il est difforme, parce qu'il a déjà trop d'enfants, parce que c'est une fille, très souvent, et qu'il faut d'abord un héritier mâle. C'est ce qui fait qu'il y avait relativement un manque de femmes dans la bonne société romaine, cela ajouté à la mortalité des femmes qui est beaucoup plus importante que de nos jours à cause des femmes mortes en couche et des difficultés évidemment inhérentes à leur vie. Et de ce fait, on peut dire que les enfants deviennent absolument la propriété de leur père, et d'ailleurs jusqu'à la mort du père. C'est-à-dire que dans la famille romaine, je précise simplement ça, c'est le pater familias qui reste le maître de la situation, même quand ses enfants sont grands, même quand ils sont eux-mêmes mariés, tant qu'il est en vie.
Alors, vous disiez, les Romains semblent avoir manifesté, comment dire, une certaine appréhension de la passion amoureuse et de ses débordements. Et voici une belle description de cette passion par Lucrèce, la passion et l'éternel retour du désir.
Visage humain et d'un bel incarnat, rien ne pénètre en nous dont nous ne puissions jouir qu'un espoir misérable et de vains simulacres, poussière que le vent a tout fait de ravir. Comme un dormeur à soif recherche une onde absente, s'évertue vainement vers des semblants de sources et boit en s'altérant à des rivières sèches, ainsi l'amant n'a-t-il que leurre et simulacre, ne repaît que ses yeux du corps qui lui fait face, sans pouvoir prendre rien de ses membres si doux qui glissent sous la main et l'errante caresse. Dans leurs enlacements, quand ils goûtent la fleur de l'âge, quand leur corps presse la joie prochaine, lorsque bientôt l'amour va jeter sa semence, ils s'approchent encore, ils mêlent leur salive et leur souffle, pressent la lèvre sous leurs dents. Mais ils sont impuissants à prendre rien à l'autre, à pousser plus avant, à passer l'un dans l'autre. C'est là ce qu'ils voudraient, c'est là qu'est leur combat, à voir avec quel feu ils serrent leurs liens, tandis que de plaisir ils pâment et se fondent. Quand se libère enfin l'amas de leurs désirs, leur violente ardeur, un moment se détend. Puis la rage revient et la même fureur. Ils ne savent saisir eux-mêmes ce qu'ils veulent, ni trouver de remède à ce mal inconnu qui les ronge et leur fait cette aveugle blessure.
Lucrèce, De Natura Rerum, une des rares descriptions, en tout cas aussi détaillées, de l'accouplement amoureux et même de l'orgasme, puisque le mot n'est pas utilisé, mais le fait est là et décrit.
Certainement. Voyez-vous, ce qu'il y a dans la mentalité romaine d'assez particulier, c'est que les Romains ne sont pas pudibonds, mais ils sont pudiques. Et ils n'aiment pas, effectivement, parler de ces choses-là, même si ils n'ont pas de scrupules pour avoir des aventures à droite ou à gauche. Et ça, c'est quelque chose d'important de bien comprendre cette différence. La femme fait peur parce que, justement, elle inspire des passions. Et la passion, c'est le contraire de l'ordre. C'est-à-dire que si l'on se laisse entraîner par les passions, on risque de ne plus pouvoir maîtriser une situation. Ceci depuis les légendes d'origine. La célèbre Lucrèce, qui était pourtant fort vertueuse et qui s'est suicidée parce qu'elle avait été violée, le fameux viol de Lucrèce, eh bien, n'oublions pas que elle avait néanmoins, sans rien faire, si je puis dire de spécial, séduit Tarquin, ce qui a provoqué évidemment la révolution. Par conséquent, vous voyez que une passion peut mener très loin. Et d'ailleurs, il faut tenir compte de cet état d'esprit des Romains qui sont très très dragueurs, qui sont très voyeurs, qui sont très sensuels. Ils se laissent volontiers emporter. Vous savez, n'oublions pas que puisque l'amour n'a pas sa place dans le mariage, le texte que nous venons d'entendre évoque plutôt des relations entre amants, bien entendu. Eh bien, on va chercher l'amour ailleurs. Et le Romain, lui, n'est pas tenu comme la femme à la fidélité. Je dis volontiers, pour provoquer un peu, que si j'avais à définir le Romain, je dirais qu'il est à la fois machiste, qu'il est misogyne, qu'il est pédophile et qu'il est bisexuel. Puisque l'homosexualité, dans certaines conditions, à condition que ça ne soit pas avec des êtres de naissance libre, est tout à fait autorisée et se pratiquait effectivement couramment. Donc, vous voyez, il y a cette particularité. Et il y a une loi, par exemple, qui est très amusante, qui avait été prise au deuxième siècle avant notre ère, justement, qui était une loi contre les dragueurs. Parce que, effectivement, il fallait protéger les femmes de bonne société et les enfants lorsqu'ils sortaient, n'est-ce pas? Les enfants étaient toujours accompagnés du pédagogue, c'est-à-dire celui qui, justement, les conduit au sens étymologique du terme, parce que ils n'étaient jamais à l'abri de Romains qui pouvaient se retourner sur tout ce qui bouge et courir après. Et nous avons des cas, effectivement, où il arrivait que malgré le pédagogue, eh bien, des Romains arrivent à leur fin en soudoyant justement les esclaves chargés de protéger soit la matrone, soit l'enfant.
Alors, Jean-Nel Robert, à l'intérieur de l'espace domestique, il pouvait y avoir même de véritables lupanards.
Oui, vous savez, la maison romaine, on l'imagine, par exemple, si nous prenons une maison de style pompéien, bon, tout le monde connaît à peu près ce que cela donne, donc une demeure vaste, on se dit que ça devait être très très agréable, ces grandes villas. En réalité, malgré l'art qui décore les murs, ce sont des lieux qui sont sombres parce qu'il n'y a pas de fenêtres vers l'extérieur, il n'y a que des fenêtres uniquement vers le patio, enfin l'atrium et le péristyle. Ce sont des lieux qui sont froids en hiver, on n'a pas grand-chose pour chauffer à part quelques braseros et une ou deux pièces qui bénéficient de l'hypocauste. Et puis, ce sont des lieux qui sont très très fréquentés. Il y a des centaines d'esclaves à chaque instant, vous tombez sur un esclave. Donc, il y a une promiscuité qui est énorme, même à l'intérieur de la maison. Et on nous raconte, par exemple, que lorsque le maître de maison et sa femme légitime s'enferment dans leur chambre pour passer la nuit, s'ils décident de la passer ensemble, eh bien, il y a toujours des esclaves qui écoutent à la porte pour savoir ce qui se passe et qui, nous dit Horace, ne restent d'ailleurs pas inactifs non plus. C'est-à-dire que les esclaves, entre eux, naturellement, ont des relations, il se passe beaucoup de choses dans cette maison, et même des lupanards, comme vous le disiez, c'est-à-dire comme par exemple dans la maison de Ménandre à Pompéi, il y a deux pièces qui étaient réservées où, pour se faire un peu d'argent de poche, c'est la maîtresse de maison elle-même qui avait là des filles qui accueillaient le passant, n'est-ce pas ? Il y avait une porte qui donnait sur la rue extérieure, qui accueillait le passant, et comme dans les grands lupanards, et où le maître de maison, d'ailleurs, pouvait très bien aller s'offrir quelques distractions. Cela ne choquait personne, à commencer par sa femme.
Oui, on va parler de la prostitution, Jean-Noël Robert, qui était aussi une véritable institution.
Alors juste
à Rome. Mais juste avant, si vous voulez bien, à propos donc de cette sensualité des Romains, on parlera aussi des lieux de plaisir, mais cette sensualité, elle s'affichait, elle se manifestait dans beaucoup de lieux, et notamment les thermes.
Alors, aux thermes, bien sûr, c'est un lieu de drague bien connu, n'est-ce pas? Pendant longtemps, les thermes étaient mixtes. À partir d'Adrien, il y aura les heures pour les hommes et les heures pour les femmes, parce que justement, ça devait devenait intenable. Mmh. Évidemment, ce sont des lieux où la nudité était de rigueur, mmh. Et bien entendu, la sensualité romaine s'y exerçait pleinement.
Alors, la prostitution, donc, qui était, alors, là aussi, comment dire, soumise à la stratification sociale,
oui. Hein,
de la courtisane à la catin, évidemment.
Absolument, parce que...
Une sorte de degré.
La prostitution n'était pas décriée. Évidemment, ce n'était pas glorieux d'être prostituée, mais somme toute, toute matrone, même de bonne famille, pouvait, si elle en faisait la déclaration au prêteur, décider de se prostituer. Simplement, elle devait à ce moment-là porter une robe d'une couleur marron qui la montrait aux yeux de tous dans son nouvel état, et c'était peut-être un peu décourageant. Néanmoins, la prostitution était considérée comme salutaire, parce que justement, ce qui est important, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la fidélité de la femme. Pourquoi une femme doit-elle être fidèle à son mari, à la différence du mari qui lui peut s'offrir des extras? Eh bien tout simplement parce que c'est elle qui porte l'héritier et il faut que son sang soit donc pur, il ne faut pas qu'il y ait mélange. On considérait que c'était l'homme en quelque sorte qui donnait quelque chose et qui donc aurait pu souiller la femme puisque c'est la femme qui reçoit. De ce fait, elle devait être absolument fidèle. Et les adultères étaient fortement réprimés naturellement quand il s'agissait des femmes. Donc, si l'on avait un besoin pressant, eh bien, on pouvait se rendre au lupanar, justement. Et nous avons des exemples. Par exemple, ce père de famille qui a remarqué que son jeune fils adolescent était tombé amoureux d'une matrone et allait tous les jours lui rendre visite. Et évidemment, c'était tout à fait contre l'ordre social et la morale républicaine. De ce fait, il a convaincu son fils de se rendre d'abord au lupanar avant d'aller chez la matrone. Et il s'est dit que certainement, le lupanar ferait son office. Ce qui d'ailleurs arriva, puisque sortant de là, déchargé de son désir, eh bien, le fils a trouvé beaucoup moins d'attrait à la matrone et progressivement a cessé de la voir. Ou bien encore la célèbre histoire que j'aime beaucoup du redoutable censeur Caton, n'est-ce pas, qui rencontre un adolescent, un jeune homme qui sort du lupanar sur le forum. Le jeune homme passe du rouge au blanc, n'est-ce pas, par toutes les couleurs, de tomber sur ce sinistre censeur. Et Caton le félicite, au contraire, et lui dit, je t'approuve d'aller voir les prostituées plutôt que de te rendre chez une mère de famille, chez une matrone romaine de naissance libre. Le jeune homme est content de s'en tirer à bon port et le lendemain, manque de chance, Caton passe sur le forum et retombe sur le même jeune homme qui sort du même lupanar et lui dit, bon, je t'ai félicité hier d'être allé voir les prostituées, je ne t'ai pas dit d'y habiter.
Alors, Jean-Noël Robert, vous évoquez justement ce danger de l'infidélité dans le couple avec ces jeunes donc qui séduisent des femmes mariées, et il est vrai que vous le soulignez dans l'un de vos livres, les textes latins donnent peu d'exemples de femmes fidèles. Alors je sais bien qu'on ne parle que des trains qui arrivent
Il y en avait sûrement, rassurons-nous là-dessus, et certaines mères célèbres comme les Cornelia, la mère des Gracques, ou la mère de César, étaient des femmes, des maîtresses femmes qui ont d'ailleurs beaucoup influencé leurs enfants, et ils se sont occupés de leur éducation. Mais il est vrai que les femmes n'étaient pas beaucoup plus vertueuses que les hommes. Si les hommes romains étaient volontiers volages, même s'ils en avaient la permission, les femmes devaient l'être aussi beaucoup. Et il y a des exemples effectivement célèbres d'adultères et de punitions que les maris, jusqu'à une certaine date, avaient le droit d'infliger à celui qu'ils prenaient sur le fait.
Alors là, les lieux de sociabilité sont un petit peu différents. Vous aviez évoqué les termes, mais il y a le théâtre aussi, où les femmes mariées peuvent rencontrer leur amant.
Effectivement. Effectivement, puisque nous avons bien sûr ce petit manuel bien connu qui est l'art d'aimer de vide. Alors disons peut-être un petit mot de ce livre qui est très très célèbre. Oui. L'art d'aimer, on pourrait penser
à un
ouvrage poétique. Ce n'est pas justement tout à fait le Kama Sutra, mais c'est un manuel pratique. Oui. C'est un manuel de recettes.
Plutôt de séduction que de pratique.
Oui, de séduction dans la mesure où c'était la mode à l'époque d'avoir des livres de cuisine, des livres techniques un petit peu sur tout, et entre autres celui-ci est un livre technique sur la séduction amoureuse. Mais, dit Ovide, pour se défendre des accusations, ce n'était pas destiné aux femmes de bonne mœurs, c'était destiné justement aux courtisanes et aux prostituées. ce qui ne devait pas être tout à fait exact quand on lit bien le texte. Oui. Mais alors justement, l'exemple que vous donniez au cirque, il nous dit comment séduire une jeune fille au cirque. On s'assied à côté d'elle, on s'approche, on est bien resserré, et puis naturellement, on ose certains gestes. Par exemple, il dit enlevez donc la poussière qui est tombée sur le sein de cette jeune fille. Et puis, s'il n'y a pas de poussière, vous faites comme s'il y en avait.
Ovid, l'art d'aimer, un extrait.
La première des certitudes à avoir, c'est que toutes sont à prendre. Tu le peux, mais tends bien tes filets. Au printemps se tairont les oiseaux, en été les cigales, et fuira devant le lièvre le chien du ménage avant que femme résiste au baiser d'un amant. Celle donc que tu penses rétive est d'accord. Tout comme à l'homme, l'amour interdit plaît à la belle. Mais l'un dissimule mal, l'autre cache son jeu. Il faudrait que nous, mâles, ne fassions plus les avances. Les femmes vaincues prendraient vite notre relais. La femelle, dans les prétendres, meugle vers le taureau. Et c'est elle, toujours, qui hennit vers les talons.
Ovid, un extrait de l'art d'aimer, et donc Ovid qui ne donne pas beaucoup de détails, comme on le précisait à l'instant, sur, disons, l'art de faire l'amour, hein, non pas seulement l'art d'aimer.
Si, quand même, pardonnez-moi, il y a quand même des précisions, par exemple, sur les positions à adopter dans la relation sexuelle pour pouvoir justement avoir la meilleure vue. Du partenaire, enfin de la partenaire, et
vous
donc
disiez,
pouvoir véritablement
voyeur et sensuel.
Voilà, pouvoir mieux en jouir. C'est assez intéressant et c'est assez nouveau quand même, hein, parce que Ovid est le premier, ce qui est scandaleux à l'époque, à nous dire que la femme a peut-être le droit au plaisir aussi.
Oui,
alors qu'il ne s'agissait que du plaisir de l'homme.
Vous citez cet extrait de l'art d'aimer du livre 3, que la femme sente le plaisir de Vénus s'abattre jusqu'au plus profond de son être et que la jouissance soit égale pour son amant et pour elle.
Oui.
Voilà une idée qui semble
révolutionnaire, effectivement, à l'époque, parce que la femme, comme nous l'avons dit au début, n'était qu'au fond une matrice, n'était qu'un outil pour la procréation, pour obtenir un héritier, et qu'on se soucie du plaisir.
L'orgasme
de sa partenaire est évidemment quelque chose de nouveau, mais ça montre bien aussi que les mœurs ont évolué, ça montre que la place de la femme dans la société n'est plus la même, qu'elle a acquis une plus grande liberté.
Et notamment une liberté sexuelle.
Et une liberté sexuelle beaucoup plus grande. Et que souvent, beaucoup de femmes d'un certain rang ont des amants ou peuvent même quelquefois, après un premier mariage, évidemment, qui leur a été imposé, à la suite d'un divorce, car l'on divorçait de plus en plus.
Voilà, de plus en plus aisément.
Aisément. Et comme elles avaient quelques fortunes, eh bien, elles pouvaient devenir maîtresses un petit peu de leur destin et choisir un mariage. Paris, ou bien entendu des amants, et quelquefois changer des destinées. Je pense à Ogulnia, par exemple, une riche personne qui avait repéré un esclave dont les charmes ne lui étaient pas indifférents, un esclave foulon qui était là en train de piétiner dans son baquet d'urine, et elle l'avait sorti de sa condition, elle l'avait acheté, elle l'avait affranchi, et elle l'avait mis dans son lit, et comme semble-t-il il donnait toute satisfaction, eh bien elle en a fait son héritier, et c'est comme ça que l'esclave était à la fois libre et riche à la mort d'Ogulnia.
Sans aller jusqu'à évoquer l'exemple de Messaline.
Bien sûr, trop connu, n'est-ce pas, qui passait ses nuits au lupanar et rentrait au petit matin, nous dit Juvénal, couvert de stupre qu'elle rapportait dans la couche impériale.
Il est vrai que les textes nous rapportent effectivement une grande liberté de la femme romaine à partir d'un certain moment, du moment où effectivement le cadre juridique du mariage s'est mis à évoluer.
Absolument, mais disons tout de suite que cela n'a pas duré. Il y a, à la fin de la République et au tout début de l'Empire, une sorte de grande liberté par rapport à ce qui existait avant, par rapport à la morale républicaine, et qui va se transformer lorsque va naître la morale, la nouvelle morale, dans laquelle la femme occupe une place différente de l'époque républicaine, puisqu'il y a une sorte de rééquilibrage dans le couple, si je puis dire. Certains historiens ont même parlé de naissance de la conjugalité. L'homme n'a plus, ne doit plus être volage, il doit lui aussi devenir fidèle. La femme doit rester fidèle, il y a une nouvelle morale, et qui est de plus en plus stricte, de plus en plus dure, qui se met en place à partir de la fin du premier siècle de notre ère. Et c'est cette morale-là que les chrétiens reprendront à partir du IIIe siècle, que nous appelons communément la morale judéo-chrétienne, mais dont beaucoup de principes sont hérités de la morale païenne de l'Empire romain, donc du IIe siècle de notre ère, où les philosophes et les médecins patronnaient, si je puis dire, les relations, les mariages et les relations conjugales. Je pense à Galien, par exemple, qui nous décrit, vous savez, c'est un véritable parcours du combattant que de faire l'amour sous l'Empire quand on est dans une bonne famille. Évidemment, dans les catégories sociales inférieures, on continue à vivre comme bon vous semble. Mais dans les grandes familles, on doit respecter un certain nombre de principes. Cette nouvelle morale est exigeante et il faut se préparer au mariage, il faut se préparer à l'union sexuelle et par un régime alimentaire, par des exercices physiques spécifiques afin de pouvoir donner l'héritier. Ça redevient l'unique objectif en bonne santé et l'acte sexuel est considéré comme une convulsion. C'est voisin pour certains médecins de l'épilepsie. Et je vous donne par exemple ce que Galien, le médecin, décrit à propos de l'acte sexuel. Il nous dit, il provoque, je cite, l'agitation des muscles, le halètement, un épanchement de sueur, la révulsion des yeux, la rougeur du visage, puis la pâleur, et finalement la faiblesse du corps tout entier, fatiguant la poitrine, les poumons, la tête et les nerfs. Je crois que...
Quel cataclysme
Absolument, les Jeux Olympiques sont un jeu d'enfant à côté.
Bon, alors ce marathon... décrit par les médecins, évidemment, il était aussi pratiqué on va sortir un petit peu Jean-Noël Robert de l'espace domestique et donc par toute une catégorie de personnes qui étaient les prostituées et on en a parlé un petit peu mais notamment de la grande considération finalement dont elles jouissaient dans cette société, puisqu'on reconnaissait leur rôle. Et en particulier...
Grande considération, c'est peut-être un petit peu exagéré.
On reconnaissait leur rôle
sous la République. Évidemment, sous l'Empire, avec ce que nous venons de dire, des nouvelles
c'est
règles
un peu différent.
Du mariage, la prostitution sera condamnée, là aussi.
Alors, cela dit, aux époques antérieures, justement, elles sont associées au culte de déesses tout à fait officielles, comme la déesse Flora, par exemple.
Ah, mais bien sûr, Flore était fêtée à chaque retour de printemps, et c'était l'occasion d'un effeuillage des prostituées, où le public romain, évidemment, se pressait avec envie, et tous, je veux dire que par exemple une fois, le descendant du célèbre Caton, celui qu'on appelle Caton le Jeune, à l'époque de César, est venu s'asseoir sur les rangs à côté du public pour regarder, et tout le monde a été un peu impressionné parce qu'il était aussi redoutable que son ancêtre, et personne ne savait où se mettre. En réalité, il était là comme tout le monde, parce que ce n'était pas hors de la morale que d'assister à ce genre de manifestation, qui, je le rappelle, était d'abord religieuse. Et puis il y avait eu l'imprégnation à Rome des cultes orientaux, servi quelquefois par des prostituées sacrées, comme celui de la Vénus Éricine, par exemple, ou comme celui de Cybèle avec ses eunuques, celui d'Attis, etc.
Ça, c'est plus tardif aussi.
Puisque si la Vénus Éricine a été introduite à Rome dans le milieu du IIIe siècle avant notre ère, alors à la suite de la première guerre punique, bon, on a attendu un peu pour laisser la prostitution sacrée se développer, mais Cybèle, par exemple, est introduite à Rome en 205 avant notre ère. Par conséquent, nous sommes encore pleinement sous la République.
Oui. Un autre élément, disons, de la vie sexuelle des Romains qui est important, vous l'avez évoqué, c'est l'homosexualité.
Tout à fait. Elle n'était pas condamnable du tout, sauf sous l'Empire avec la nouvelle morale, encore une fois, mais sous la République et au début de l'Empire, elle n'était pas condamnable puisque elle était possible à condition de ne pas s'en prendre à des enfants ou à des hommes de naissance libre. C'était ça la règle morale. C'est toute la différence avec la pédérastie grecque, où au contraire, l'homosexualité, c'est de prendre pour un homme un jeune compagnon, c'est une œuvre éducative chez les Grecs, mais un jeune compagnon de naissance libre, de bonne naissance. À Rome, c'est le contraire. On peut s'amuser comme l'on veut, avec qui l'on veut, quel que soit l'âge, à condition que ce ne soit pas des gens de naissance libre, donc des esclaves, bien entendu.
Merci Jean-Noël Robert. Je rappelle que vous êtes historien et auteur notamment de ce livre dont nous avons parlé, Les plaisirs à Rome, aux éditions Les Belles Lettres. C'était le troisième volet de cette série consacrée à l'anthropologie de l'orgasme que nous retrouverons demain avec Claude Langlois. Texte lu par Marie Bouvier et Éric Herson-Macarel. À la console aujourd'hui, Pascal Dupont. Les chemins de la connaissance, une émission de Jacques Munier réalisée par Céline Terce.